Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bienvenue sur Radio Désir. Nous sommes actuellement réunis dans le cadre du Café Philo qui a lieu tous les vendredis au lycée de midi à 13h, qui est animé par Madame Héral ici présente. De plus, nous sommes avec Caroline ici présente.
Bonjour.
Jeanne.
Bonjour.
Zoé, élève de ES.
Bonjour.
Lucas, élève de STI2D.
Bonjour.
Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Jeanne pour qu'elle nous parle du concours général de philosophie.
Alors, le thème du Café Philo cette semaine, nous allons traiter une question sur laquelle je suis tombée mardi 13 à l'occasion du concours général de philosophie. Donc, le concours général, c'est un concours national qui a lieu tous les ans dans chaque lycée et dans laquelle nous pouvons nous présenter pour chacune des matières enseignées. J'ai passé la philosophie donc ce mardi, et le thème que nous avons dû traiter en dissertation est « L'intelligence donne-t-elle des droits ?». Donc c'est la question sur laquelle nous allons débattre aujourd'hui.
D'accord. Caroline a quelque chose à nous dire concernant aussi la philosophie.
Oui, parce que moi j'ai passé le concours de Sciences Po Paris pendant les vacances de février. Et étant elle, j'ai choisi de passer une épreuve de philosophie. Donc c'était un commentaire de texte du philosophe Montaigne. Et c'était un texte portant sur la justice, donc qui rejoint un petit peu notre question du jour.
Donc Madame Héral, maintenant à vous de commencer.
Bon, écoutez, moi je vais simplement me présenter, hein, juste lancer le débat en effet. J'anime le Café philosophique depuis 2 ans dans le cadre du CDI en collaboration avec Madame Descartes. J'en suis tout à fait ravie. Donc d'habitude, évidemment, nous sommes à peu près 12-15 élèves qui participons, qui buvons le thé, mangeons du petit gâteau tout en dialoguant autour d'un sujet qu'on décide d'une semaine à l'autre et puis par ailleurs qui est publié sur place du lycée. Les élèves accueillis lors de cette rencontre philosophique sont recrutés parmi toutes les filières, bien sûr. Alors le niveau de la terminale, mais également la première, les secondes, ça va de la L, ES, S, STMG, ainsi que la STI du 2D, dont nous avons un représentant ce matin qui est présent malgré le persan, à savoir Lucas. Je voulais aussi donner la parole à Zoé, qui fait partie de nos fidèles et qui va peut-être démarrer justement sur ce sujet qu'elle découvre. Parce qu'aujourd'hui, on a pris celui-ci, l'intelligence donne-t-elle des droits, et on a reporté à la semaine prochaine celui qui était affiché au programme, à savoir pourquoi ment-on. Tout simplement parce que, vu le persan, on craignait de ne pas avoir autant justement de participants. Voilà, à toi Zoé.
L'intelligence donne-t-elle des droits? Déjà, je ne m'y attendais pas comme sujet. Je pensais que ça allait porter sur le mensonge. Et j'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Et je pense que l'intelligence nous ouvre peut-être plus de portes que... je ne sais pas m'exprimer. Je pense que lorsqu'on est intelligent, forcément, on aura plus d'opportunités que d'autres personnes, mais... Est-ce qu'elle nous donne des droits ou est-ce qu'elle nous donne plus de droits que d'autres personnes? Je pense pas vraiment.
Voilà, alors donc effectivement, tu es un petit peu surprise par le sujet et tu réponds donc sur le vif. Alors Lucas, ce sujet, en quoi t'inspire-t-il?
Moi-même, je suis surpris par le sujet. Je m'attendais aussi à mensonge.
Voilà, tu reviendras la semaine prochaine sur le mensonge. Excuse-nous, on n'a pas voulu te mentir.
Il n'y a pas de souci. Mais pour revenir à ce que disait Zoé, l'intelligence, ouvre des portes qui seraient fermées si on ne la possédait pas. En revanche, quand on regarde dans l'histoire, c'est selon notre caste sociale, par exemple, quand on regarde il y a plusieurs centaines d'années, c'est surtout selon notre caste sociale qui nous donnait accès à l'intelligence.
Tout à fait. Alors tu veux dire l'éducation par l'intermédiaire de l'instruction, oui. Voire même peut-être la base qui consiste à savoir lire, à savoir écrire, donc à accéder à ces fameux droits. Je pense qu'au départ, ce serait bien qu'on définisse justement les termes clés de ce sujet, les concepts. Le premier étant l'intelligence. Donc, quel est le sens que vous attribuez à ce terme?
L'intelligence, pour moi, ce serait plutôt les capacités intellectuelles, additionné à la culture
oui.
que le sujet a reçu.
D'accord. Ensuite, donc Caroline, tu voulais ajouter, compléter
Oui, alors il existe aussi des moyens de mesurer l'intelligence. Je parle notamment du QI.
Mm-hmm.
Mais après, est-ce que ces mesures sont vraiment fiables? Et est-ce que l'intelligence, ce ne serait pas aussi comment l'individu se comporte en société avec les autres, par exemple?
Oui. Ouais. Déjà, il y a plusieurs mesures pour le QI. Et un individu qui passe un test de QI, même s'il repasse une semaine après, le résultat ne sera jamais le même. C'est une découverte qu'on a faite. Donc, est-ce que c'est vraiment fiable?
D'ailleurs, Stephen Hawking, qui est mort cette semaine, disait que les tests de QI n'étaient pas vraiment représentatifs de l'intelligence d'un individu.
Oui. Donc là, vous m'avez distingué dans l'intelligence quand même deux types de capacités. Une capacité purement intellectuelle, c'est-à-dire produire des idées, en inventer, en imaginer, et puis évidemment les élaborer. Mais par ailleurs, toi, Caroline, tu m'as évoqué aussi l'intelligence dans le sens, justement, la raison, la conscience, la réflexion. Est-ce que c'est bien donc ces deux aspects que vous voyez à travers oui. ce terme? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction conceptuelle? Vous voyez, parce que dans le sujet, l'intelligence ne peut oui. pas être pris comme ça, je veux dire, de manière isolée. Vas-y.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs types d'intelligence.
Oui.
Donc, l'intelligence qui se mesure par le QI, justement, ce serait plutôt l'intelligence logique. Des gens qui font des mathématiques, qui réfléchissent vraiment de façon logique. Et l'intelligence plutôt émotionnelle, la capacité des gens à ressentir les émotions autour d'eux qui font qu'ils se comportent en société.
Tout à fait. Alors d'une part, l'intelligence rationnelle, comme tu l'as dit, à travers la logique, la démonstration et le raisonnement. Et par ailleurs, l'intelligence peut être, c'est-à-dire la sensibilité, voire l'adaptation au milieu. Ce qui va faire justement la thèse, oui. par exemple, du darwinisme. Enfin, bon, donc, est-ce que vous avez autre chose, Enzo, a précisé à ce propos? Sur l'intelligence déjà, où on est d'accord avec ce terme, cette
oui,
base
oui. oui. Non, j'ai rien à rajouter.
D'accord, Caroline.
Déjà, c'est très subjectif, l'intelligence, parce que comme nous sommes des individus uniques et que nous avons reçu notre propre éducation et que nous ne venons pas du même milieu, des mêmes classes sociales, comme disait Lucas tout à l'heure, c'est très difficile de se dire qu'est-ce que l'intelligence normale de base.
Tout à fait. Donc,
Zoé, tu
oui. as je voulais juste dire que moi, j'étais d'accord avec la définition de Jeanne. Je pense que c'est les capacités individuelles de l'individu. Mais après...
Voilà. Donc elles sont toutes relatives, elles sont uniques, elles sont propres à la personne. Ça rejoint aussi ce que vous dites, ainsi que Caroline qui nous parle justement de subjectivité. Voilà. Et qui donc, l'intelligence n'est pas une valeur absolue. Tu me dis, Jeanne.
L'intelligence est surtout définie par la société qui nous fait rentrer dans des cases et qui définit l'intelligence. Enfin,
d'accord, tout à fait, bien entendu, et puis la mesure qui l'évalue, oui. oui.
Voilà.
Et une hiérarchie aussi établie dans certaines sociétés.
En rapport avec les élites, tu veux dire, peut-être
Des intelligences aussi.
D'accord.
Comme il a dit, des fois, ce sera plus valorisé d'être intelligent par le QI plutôt qu'intelligent par, comme tout à l'heure elle a dit, les émotions.
Oui, c'est ça, l'intelligence donc rationnelle, logique, qui va être évaluée de manière assez objective, enfin, je dis assez, normalement purement objective, et puis l'intelligence justement donc liée à la sensibilité, à la personnalité et à l'adaptation donc à l'environnement et ses capacités à surmonter par exemple des épreuves, des obstacles. Voilà, alors je pense qu'au niveau d'intelligence, on a déjà bien passablement creusé.
Oui.
Hein.
Mais,
bon, à la limite, oui.
Mais par rapport au sujet, je me demandais, l'intelligence donne-t-elle des droits? C'est-à-dire que les personnes intelligentes ont-elles plus de droits que les
c'est
personnes
ça.
Qui le sont moins?
Tout à fait, voilà. En effet, c'est la problématique qui est cachée derrière ce sujet. Voilà, maintenant, j'aimerais bien qu'on définisse en face le mot droit, parce que normalement, comme vous l'avez dit, l'intelligence, c'est une donnée justement subjective personnelle, alors que les droits sont en principe objectifs et purement juridiques, c'est-à-dire distribués de manière égale et universelle, dans le souci de l'équité et de la justice, comme tu l'as dit. Alors, donc, je vais peut-être un peu trop loin dans mon explication, mais avez-vous donc d'autres précisions à apporter à propos de cette notion de droit qui est ici présentée au pluriel?
Alors pour moi, les droits, ce sont des libertés qui sont accordées à un individu dans le cadre d'une loi.
D'accord.
Donc ça rejoint la justice.
Oui.
Après, il y a des droits qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans le cadre, dans ce cadre-ci, notamment des droits individuel. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais...
Les droits moraux.
Les droits moraux.
Voilà, tout à fait. Oui. Donc là, tu fais aussi une distinction. Vous avez vu tout à l'heure l'intelligence, on l'a divisée en deux quasiment. Bon, évidemment, hein, les deux aspects sont liés. Mais maintenant, les droits, c'est pareil. En plus, c'est un terme employé au pluriel. Donc les droits, c'est pas seulement l'aspect justement justice juridique et loi, c'est également les droits, tu as tout à fait perçu donc cette nuance, les droits moraux. Alors continuons sur ce thème-là, parce que c'est finalement cet aspect le plus, je dirais, délicat, le plus complexe, celui qui fait basculer donc, le sujet. Alors, à quoi cela fait-il référence, à votre avis, l'idée de droit moral ? Vas-y.
Alors, moi, je pense que les droits moraux, on les acquiert par l'éducation. Mmh. Donc, notamment quand on est en société, par exemple, à l'école. L'école nous inculque des droits et puis aussi des devoirs.
Tout à fait. Alors là, ce sera donc un droit qui sera transmis par l'éducation, les parents, la famille, les structures, voilà. Par ailleurs, donc ce sont des droits aussi qu'on s'octroie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le droit de ne pas te respecter ou le droit justement de te faire honneur. Ici, c'est purement, je dirais, humain, hein, si on s'appuie sur cette définition, la moralité intervient. Et là, en effet, c'est plus un problème de conscience, de comportement, voilà, et de conviction. Alors,
Là, une fois de plus, la moralité est subjective, puisqu'elle est propre à chaque société.
Oui.
Et j'avais lu un texte de Platon la dernière fois, c'était l'anneau de Cygès, je crois.
Tout à fait.
Et c'est l'histoire d'un berger qui trouve un anneau. Et en fait, lorsqu'on porte cet anneau, on devient invisible. Et la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai le droit de faire du mal parce que je suis invisible et que personne ne me voit, ou est-ce que je garde mes valeurs et même si personne ne me voit, je reste dans ma moralité.
Absolument. Donc ça,
c'est propre à chacun.
C'est une affaire aussi de volonté, tout à fait, de détermination et de choix aussi, oui, par rapport à la fidélité de nos principes. Maintenant, peut-on justement affronter la totalité du sujet avec cette bascule, l'intelligence, oui ou non, donne-t-elle, tu l'as dit tout à l'heure, Lucas, et Zoé, des droits supplémentaires, hein? Voilà, donc on a un paradoxe, parce que normalement, les droits, ils sont égaux pour tout le monde, ils sont distribués de manière équitable.
Oui, c'est ce que dit l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui. Les hommes laissent libres et égaux en droit, mais les humains ne naissent pas tous égaux en intelligence. Et du coup, c'est là que ça pose un problème, où certains, justement, seront défavorisés par rapport à d'autres.
Voilà, et la loi est là pour compenser, justement, hein, ces déficiences.
Enfin, dans certaines sociétés.
Dans des certaines fois, sociétés, tu as raison.
Carrément, justement... augmenter le fait que certains ont plus de droits parce qu'ils sont intelligents et que d'autres n'en aient presque pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou pas reconnus comme intelligents.
Oui, c'est ça.
Et justement, je pense que le but d'une société démocratique idéale, c'est le fait que tout le monde ait les mêmes droits, peu importe le fait qu'il soit reconnu comme intelligent ou non.
C'est ça. C'est-à-dire jugé comme étant déficient. Oui.
Voilà.
Mais j'en ai pensé, mais les personnes intelligentes, elles ont moins de droits, car une personne qu'on considère comme moins intelligente qu'une autre, on va moins lui accorder d'importance lorsqu'il s'agira de... lorsqu'elle nous donnera son avis ou... lorsqu'elle fera quelque chose, on lui accordera moins d'importance qu'une personne intelligente, car on trouvera ça peut-être moins légitime, comme elle est moins intelligente.
Tu as tout à fait raison dans ton point de vue, ton avis. Par contre, l'intelligence ici, elle va se mesurer comment, je veux dire. Comment puis-je, si je suis évidemment dans le préjugé, la mauvaise foi, juger qu'une personne est moins intelligente qu'une autre? C'est à partir de quelle...
Généralement, une personne, on la juge intelligente déjà d'après sa profession. Car une personne qui est caissière, on va lui donner moins d'importance que la personne qui gère son magasin.
D'accord. Alors là, toi, tu parles de statut social. Voilà, avec des étiquettes, des préjugés, hein, je veux dire, qui condamnent les personnes, ne serait-ce qu'à partir de leur travail, leur apparence.
Parce que dans notre société actuelle, on est plutôt jugé, comme Zoé l'a dit, sur les professions qu'on exerce.
Oui.
Et en fonction des diplômes qu'on a obtenus et les études qu'on a réalisées. Donc l'intelligence, pour moi, ne se mesure pas aux études, mais la société le perçoit comme tel.
Alors voilà, ici on est vraiment au cœur du sujet, Enzo.
Et c'est en fait une hiérarchie qui commence dès le lycée, justement avec les choix des filières, où en France, une intelligence scientifique est plus valorisée qu'une intelligence, par exemple, émotionnelle, comme on a dit tout à l'heure, et où des hiérarchies de filières s'installent entre, par exemple, la S, qui est vue comme une filière royale, et à l'exact opposé, la L et les filières technologiques ou
Oui, oui, tout à fait. Il y a donc finalement une sorte d'élitisme qui se construit à partir de ces préjugés et qui est fort regrettable. Bon, alors tout à l'heure, vous parliez, par exemple, de profession. Alors, tu disais les apparences. Bon, alors là, ça s'appelle le statut, c'est-à-dire l'état dans lequel je me présente face à la société qui va tout de suite mettre justement une image sur ma personne à partir de ma réputation. Mais alors maintenant, cette intelligence, bon, si je suis quelqu'un qui travaille à Auchan, je veux dire, je peux quand même pour autant savoir très bien m'exprimer. Hein. Donc là, je vais manifester mon intelligence par quels moyens, hein. Quelles sont les possibilités d'exprimer son intelligence et d'en convaincre autrui?
Alors, moi, je
au-delà des apparences.
Je pense qu'au-delà des apparences, on peut s'élever dans la hiérarchie si, par exemple, on a les mots, on sait parler aux gens, on sait les convaincre. Et alors là, même si on n'est pas forcément intelligent, on sera écouté parce qu'on s'est persuadé l'autre.
Tout à fait. Donc on peut être autodidacte ou alors avoir fait des études courtes à partir du moment où on a appris à manipuler donc, un certain type de discours avec un langage approprié. N'est-ce pas? Donc voilà, c'est un moyen par lequel je prouve mon intelligence. Bon, ça va être, je veux dire, la forme, la méthode, l'instrument. Maintenant, comment vais-je, je veux dire, convaincre mon auditoire et justement prouver que je suis intelligent et que je peux accéder à des droits, voire même peut-être en user davantage. Donc en dehors du langage. J'ai aussi des connaissances en principe,
oui.
N'est-ce pas? Il y a du contenu là. Si j'ai la forme, bon, après il y a le contenu, c'est-à-dire... Hein.
Oui, parce que finalement, on a tous une culture, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de sous-culture. Donc je pense que ça peut être un moyen de nous élever dans cette hiérarchie, justement.
Par ailleurs, voilà.
Après, tu dis qu'il n'y a pas de sous-culture, mais c'est vrai que dans la société, les gens ils valorisent plus, par exemple, une culture littéraire ou scientifique qu'une culture populaire qui est moins bien vue. Donc,
comme musicale, ou, par exemple.
Tu veux dire que
par exemple, si quelqu'un lit beaucoup de romans et a une bonne culture littéraire, on va dire « ouais, c'est génial », alors que quelqu'un qui lit des mangas ou des romans graphiques, sa culture littéraire, les gens en auront rien à faire. Hein.
Bah, c'est-à-dire que, bon, là, il va falloir faire preuve, je dirais, de raisonnement pour autant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que la culture, sinon ça va stresser, ça va, je veux dire, figer, ça va complexer, hein, quand même, justement, les jeunes qui n'usent et n'utilisent et ne profitent que de la culture, entre guillemets, populaire. Il faut quand même leur accorder notre crédit, notre confiance, en pensant que, même si ces personnes n'ont pas des mots très sophistiqués, hein, voilà, par ailleurs, ils n'ont pas une culture extrêmement élitiste du fait qu'elles n'ont pas eu l'occasion de sortir beaucoup en dehors de leur localité. Eh bien, il faut savoir quand même que l'intelligence, elle se définit aussi par rapport à la conscience, déjà, hein, donc qui a le bon sens. Et la chose la mieux partagée, a dit Descartes dans le discours de la méthode, un texte qu'on a fait en classe, voilà, le bon sens qui est donc distribué de manière équitable en tous, et par ailleurs la faculté de raisonner. Hein, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est donc rigoureux, même s'il n'apporte pas beaucoup de contenu. Et alors, il sera peut-être plus convaincant que celui qui veut en mettre plein à la vue et sortir toutes ses connaissances de sa poche. Alors, l'intelligence donne-t-elle des droits? Nous permet-elle d'accéder à ces droits? Et par ailleurs, de manière un petit peu plus provocatrice, l'intelligence nous accorde-t-elle plus de droits que ceux qu'on nous recevrait de manière naturelle?
Alors justement, dans ma thèse, j'avais parlé non pas des sujets humains, mais des animaux,
oui,
qui ont une intelligence très différente de la nôtre, puisqu'ils sont guidés plutôt par leurs pulsions, leur sas freudien. Et pour autant, même si ces animaux sont intelligents et qu'ils peuvent ressentir des choses, ils n'ont pas plus de droits. Puisqu'on autorise encore la chasse ou...
Voilà, c'est-à-dire que le droit est construit, est élaboré, réfléchi par rapport justement essentiellement à la condition humaine. Voilà. Là, toi, tu avais fait ce lien avec, en effet, la cause des animaux. C'était tout à fait approprié dans le sujet, dans une partie, bien sûr, annexe. Ensuite, cette intelligence, alors est-ce qu'à votre avis, elle donnera... plus de droits à ceux qui savent en user, voire en abuser. Alors, quelles sont les personnes qui vont chercher, par leur intelligence, à abuser ?
Les hommes politiques.
Ah, les hommes politiques. Alors, vas-y. Non. Oui.
Les hommes politiques, enfin, je parle pour une majorité d'entre eux, ils cherchent justement à profiter des personnes avec des capacités intellectuelles moindres, qui n'ont pas une capacité de réflexion, soit en leur promettant des choses impossibles à réaliser, ou...
Ça, c'est de la démagogie, l'usage de la démagogie, qui est une forme d'intelligence, qui justement prive les autres d'avoir des droits, parce que les uns veulent conserver justement ces mêmes droits qu'ils ont. Et d'ailleurs, ça fait écho à l'opposition à la fin du 19e siècle entre capitalistes et prolétaires, où justement les capitalistes avaient déjà le pouvoir et du coup privaient les prolétaires d'en avoir parce qu'ils avaient le pouvoir et l'intelligence. Et les prolétaires, du coup, pour acquérir de nouveaux droits, ont fait usage d'une intelligence collective afin justement de s'opposer à ceux qui avaient le plus de droits et de pouvoir, justement pour acquérir à la fois plus de pouvoir et de droits.
Et les défendre.
Oui, et les défendre. Aussi.
Jeanne.
J'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit Zoé tout à l'heure, pour préciser que, pour moi, le droit est un antonyme de la morale. Et que même si on use de nos droits, c'est pas parce qu'on a le droit que ça correspond à nos valeurs.
Oui, d'accord. Toi, tu fais vraiment la distinction.
Je pense.
Oui, oui. Ensuite, je pensais aussi, pour rebondir, à l'idée de ruse et de manipulation, hein, qui sera propre à ces bons rhéteurs, c'est-à-dire à ces hommes qui sont dotés de charisme, qui sont donc capables de faire de belles phrases et manipuler, en quelque sorte, fasciner leur auditoire du cœur.
Un discours qui sera forcément plus réfléchi et sera forcément plus mis en avant qu'un discours avec des mots... plus populaire, plus les mots sont considérés comme intelligents, je dirais, plus il va être écouté et mis en avant.
Voilà, plus ce discours va être, d'après toi, pris au sérieux, Enzo, je voyais que tu tiquais.
Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que dans le Gorgias de Platon, y a l'analogie du médecin et du cuisinier. Donc, en fait, un sujet est malade et le médecin va proposer, du coup, grâce à son intelligence, une solution à cette personne. Sauf que, par exemple, ça sera des potions qui ne seront pas agréables. Tandis que le cuisinier va présenter quelque chose comme une solution, alors qu'en fait, ce ne sera pas du tout une solution, ce sera juste un moyen de mettre de la poudre aux yeux, en fait. Et c'est un peu ce que Platon disait de la rhétorique, donc des gens qui utilisent la parole afin de convaincre leur auditoire avec la parole et pas avec, justement, des connaissances du fond. Et c'est justement là... Oui, Caroline, tu as quelque
chose. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense aussi que tout dépend de l'auditoire, comme tu l'as un petit peu dit avec le Gorgias. Parce que, par exemple, quand on prend l'exemple des régimes totalitaires, les dictateurs n'employaient pas forcément des mots compliqués. Et c'était surtout de la violence pour en mettre un peu de la poudre aux yeux. Et le mouvement a été suivi par le plus grand nombre, alors que leurs idées n'étaient pas intelligentes et leurs mots n'étaient pas intelligents non plus.
Voilà, leurs droits étaient donc défendus par leurs pseudo-droits, des slogans et de la méthode de la propagande. Oui, donc en effet, si tu parles de langage populaire comme l'évoquait Lucas, ça peut être un langage brutal qui affronte le public. Et là, Enzo, tu soulignais, je pense, la différence entre persuader et convaincre. Vous vous souvenez, on l'a fait en classe.
Oui.
Voilà,
oui.
La différence, elle est quand même notable. Hein, le Gorgias, Gorgias va persuader. En tout cas, c'est la thèse qu'il défend. Par ailleurs, je voulais aussi qu'on remarque la notion de ruse, voire même de machiavélisme, c'est-à-dire l'intelligence qui va se mettre au service de la manipulation. L'intelligence donne-t-elle des droits ? Oui, c'est cette intelligence, si tu veux, a pour but... Je ne sais pas si vous allez me suivre, d'accord, de profiter, de bénéficier de privilèges et de faveurs supplémentaires.
De se donner des droits,
voilà,
pas aux
autres. Voilà, tout à fait. Voilà, vas-y.
Et justement, peut-être qu'on peut faire une distinction entre l'intelligence qui profite à tous, pour tous, donc des droits pour tous, et l'intelligence des uns qui veulent justement s'accaparer pour eux des droits et du coup en priver pour d'autres.
Voilà, à des fins personnelles.
Oui, et je pense que c'est ça que Zoé voulait dire tout à l'heure, que du coup les hommes politiques... Donc, qui ont la réputation en France d'être toujours les mêmes, avec les mêmes idées, etc., sont quand même intelligents et ont des droits, et justement, se les gardent pour eux, et en du coup privent les autres d'en avoir.
Tout à fait, de manière égoïste, égocentrique, et donc rapportée à eux-mêmes uniquement. Voilà, on arrive à la fin de notre séance, je veux dire à la fin de notre débat. Je voudrais quand même qu'on revienne sur cette notion de droit. Normalement, les droits, on l'a dit au départ, sont objectifs. Quels sont les droits justement accordés de manière universelle à tout le monde, de façon équitable? Quels sont, donc, tu as évoqué, il me semble, la déclaration.
Oui, voilà, article
1. Toi, la Constitution, je crois bien. Non, bon, alors c'est... Alors, quels sont ces fameux droits? Alors, tu parlais tout à l'heure, Caroline, de droits écrits. J'ai bien compris, les droits écrits, les droits consignés, n'est-ce pas, dans les textes de loi. Et c'est là où tu as fait la différence avec les droits moraux. Voilà. Donc, normalement, on devrait quand même considérer au final que l'intelligence n'accorde pas plus de droits qu'autre chose, parce que sinon, là, c'est l'intelligence va créer un déséquilibre, une injustice.
Peut-être qu'on peut dire que l'intelligence ne donne pas plus de droits, mais peut-être que comme on est intelligent, on sera plus facilement informé.
Tout à fait.
Parce que je ne pense pas que chaque citoyen français connaisse tous les articles de la Constitution, mais peut-être que des gens qui ont fait plus d'études, du coup, en sont plus informés et en usent plus. En fait, peut-être que les gens ne sont juste pas au courant.
Alors, quels sont les métiers qui sont concernés justement par cette étude, cette analyse de ces textes de loi qui vont faire justice après ?
Justement, les métiers du droit, par exemple, avocat ou juge, ils seront évidemment plus informés que d'autres personnes.
L'avocat,
c'est leur métier, ils ont étudié les textes, ils savent quels droits on peut avoir et au contraire ceux dont on ne peut pas bénéficier.
Mais du coup, leur connaissance de ces droits leur donne un peu le devoir d'informer les autres qui ne sont pas au courant de ces mêmes droits.
De créer donc l'égalité, tu
généralement
veux dire,
hein. C'est le but de ces métiers, avocat, juge, c'est de sensibiliser les autres à leurs droits. Généralement, lorsqu'on appelle notre avocat, c'est pour en savoir sur nos droits et c'est à ce moment-là qu'il doit nous informer.
Oui, bien sûr. Donc c'est un métier, hein, dans le cadre de la plaidoirie justement, où l'avocat va devenir plus fort parce qu'il a la connaissance des moindres, je dirais, détails et recoins de ces textes qui sont parfois très difficiles d'accès, hein, je dirais terriblement complexes. Donc finalement, on termine, enfin, si je vous écoute bien, l'intelligence, c'est-à-dire l'éclairage, la connaissance, l'intelligence, justement le bon sens, bien accompagné d'une bonne étude et d'une analyse fine, nous permet d'accéder à nos droits et peut-être justement de les diffuser, de manière généreuse au peuple, de manière ouverte, aux autres qui n'y ont pas accès. L'intelligence, bien conduite, raisonnée et raisonnable, apporte une sorte de, je le disais, de solidité, de force à ces droits, pour mieux en faire profiter le peuple tout entier, à condition que cette intelligence ne se prenne pas pour une puissance supérieure, ne procède pas à un abus de pouvoir. Vas-y.
C'est par exemple pour la colonisation, donc la deuxième phase qui a eu lieu à la fin, à partir du 19e siècle, c'était justement là le moment où l'intelligence a été portée comme principe absolu, en disant... Par exemple, à l'Assemblée nationale, Jules Ferry avait dit « on va apporter la civilisation en se portant comme une intelligence supérieure par rapport à d'autres civilisations ». Et c'est là justement les dangers que peut porter,
cette espèce d'intelligence, si tu veux, qui sera comprise comme, exprimé comme une vanité, une prétention. Voilà, je prétends mieux savoir que toi. Par ailleurs, je vais utiliser un langage pour, soi-disant, mieux m'exprimer avec, justement, une rhétorique élaborée et sophistiquée. Voilà, et ça, c'est un piège. En effet, c'est un piège qui va conduire à des drames, comme tu disais, politiques, sociaux, voire historiques. En tout cas, à des vices, des tentations mauvaises sur le plan moral. Oui. Bon, écoutez, je pense qu'on
a fait le tour de la question pour le moment.
Oui, Zoé.
Oui, c'est...
Lucas.
Oui, je suis d'accord.
Donc, nous avons fait le tour de la question, comme Jeanne a dit. Et le prochain Café Philo aura lieu, du coup, la semaine prochaine, vendredi à midi, comme tous les vendredis. Mais aussi lors des portes ouvertes qui auront lieu samedi 24 mars. il y aura un café philo exceptionnel, du coup, animé par Madame Héral.
Oui, alors c'est-à-dire qu'on va s'installer en salle 212, on va accueillir donc à la fois les élèves qui veulent participer, avec évidemment mes fidèles qui fréquentent hebdomadairement le café philo. Nous allons accueillir les parents, enfin tout type, enfin des visiteurs sérieux évidemment. Ensuite, on présentera donc le programme de philosophie terminale, bon, de toutes les sections, hein, parce que bon, qui prendra la parole parlera bien entendu de son expérience. Par ailleurs, initiation aussi à la philosophie en première qui a été mise en route cette année. Voilà, donc nous vous attendons, nous vous accueillons avec grande joie, plaisir. Je le rappelle, samedi de 9h à 13h, donc lors de la journée portes ouvertes. Et puis, je souligne à nouveau que le sujet de la semaine prochaine, dont on débattra donc vendredi, traitera justement de la question du mensonge. Hein, parce qu'à chaque fois, finalement, il ne faut pas donc oublier de préciser qu'on fait des sujets qu'on travaille de manière théorique en classe, c'est-à-dire sous forme du programme. Là, on est dans le thème de la vérité. Alors du coup, hop, on enchaîne avec le mensonge. Et puis, c'est sûr qu'on fait un débat beaucoup plus spontané et vivant. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, ainsi que Madame Descartes.